Merci Gilles et bonsoir à tous et bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Jérôme Crapati et Jean-Louis Guépy en direct du studio. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et nous rejoindra tout à l'heure Olivier Degnaud en direct de Paris pour un point sur les Jeux Paralympiques. Au sommaire de cette émission, donc du rugby avec la troisième journée du Rugby Championship, du golf avec la fin de la FedEx Cup et la fin du PGA Tour du coup, et donc un point sur les performances de nos athlètes calédoniens aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Nous continuerons ensuite cette émission avec un petit débat sur l'intérêt que suscitent justement ces Jeux Paralympiques auprès du public et des téléspectateurs, et nous terminerons comme d'habitude par vos coups de cœur. On va donc commencer, Jérôme Crapati, avec vous et le Rugby Championship. Les Springboks ont confirmé leur supériorité du moment face aux All Blacks, 31-27 à l'Ellis Park ce week-end. Les Springboks semblent intouchables pour l'instant.
Oui, complètement. Les Springboks sont non seulement intouchables, mais en plus, on a pu voir ce qui se fait de mieux d'un point de vue de la compétition internationale, puisque le Rugby Championship, aussi appelé le Four Nations, est une compétition qui réunit donc les quatre nations majeures de l'hémisphère sud, donc l'Afrique du Sud, les All Blacks, l'Australie et l'Argentine, puisque l'Argentine, en 2012, a intégré donc le Tri Nations, puisqu'ils avaient fait d'excellents résultats dans les Coupes du Monde de 2007-2011. Et donc là, on a vraiment une émulation et beaucoup, beaucoup de belles compétitions. Donc avec ce Rugby Championship, effectivement une très belle victoire donc de l'Afrique du Sud au dernier moment contre les Néo-Zélandais. C'est un choc qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Il y a eu même, c'est un succès qui a été complètement renversant avec une grande intensité au niveau du jeu. Et malheureusement, les Néo-Zélandais ont commis donc 15 pénalités, ont été sanctionnés 15 fois. Et donc c'est vrai que du coup, les Sud-Africains ont pris le dessus en fin de match. Et c'est vrai que c'est une affiche de prestige qui se déroulait donc dans l'Ellis Park donc de Johannesburg, avec près de 62 000 spectateurs. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup d'engouement. Et les Sud-Africains confirment bien leur forme, puisqu'ils sont sur la troisième victoire, puisqu'on est sur la troisième journée, et qu'il y a six journées, on est sur des systèmes de match aller-retour. Et vraiment, battre déjà les Néo-Zélandais est un exploit, puisque je rappelle que les Néo-Zélandais ont gagné donc 19 fois ce Rugby Championship, et donc on est à la 29e édition, et vraiment l'hégémonie de la Nouvelle-Zélande eh bien, a été complètement contrée par des Sud-Africains qui sont de plus en plus performants.
Alors, on a eu quand même eu un match très spectaculaire, 7 essais en tout, 4 pour les Néo-Zélandais, 3 pour les Sud-Africains. La différence s'est faite, vous l'avez dit, sur les pénalités, hein, la discipline, et puis sur la réussite au pied, puisque Mgo Medzelou était absolument intraitable au pied côté Sud-Africain. Il a fait la différence, et puis cette infériorité numérique en fin de match qui joue des tours un peu aux Néo-Zélandais, qui pouvaient du coup espérer mieux s'ils étaient restés à 15.
Exactement. Ce numéro 10, la jeune, donc de 22 ans, est très très surprenant. Et c'est vrai qu'il a un taux de réussite assez important. Les Néo-Zélandais menaient 27-17 à 10 minutes de la fin. Et puis finalement, donc les Sud-Africains donc passent devant avec deux essais sur la fin de match. Les commentateurs disaient que les Sud-Africains font une maîtrise de la gestion des émotions. Ils restent toujours calmes. Ils ont un rideau défensif extrêmement performant. Et ils font aussi montre d'une très grande force collective. Donc, ils sont très compacts, ils sont costauds. Ils sont assez pragmatiques sur tout ce qui est le jeu offensif. Bref, c'est vraiment une équipe qui est très complète. Et on avait l'impression que les Blacks étaient allaient gagner. Et finalement, les Sud-Africains reviennent donc vraiment sur la fin.
C'est vraiment le capital confiance des doubles champions du monde, finalement. C'est aussi un des atouts d'être double champion du monde. Ça donne quand même une certaine confiance.
Oui, complètement. C'est une équipe qui est sur une très belle dynamique et qui a gagné donc tous ses matchs donc depuis le début de la compétition, et qui est vraiment aussi disciplinée. Ils commettent pas beaucoup de fautes, et ils sont surtout très performants sur l'alternance rideau défensif et l'alternance offensive. Et ça, c'est très, très, très intéressant, parce que les équipes au niveau mondial, les équipes souvent qui gagnent, c'est celles qui font le moins de fautes possible.
Jean-Louis Guépy, vous avez suivi ce match entre les Box et les Néo-Zélandais ?
Non, je n'ai pas suivi, mais on peut dire que depuis les deux dernières Coupes du Monde, l'Afrique du Sud a une petite avance, et dans ma petite observation, en termes de coaching. À chaque fois, ils présentent leurs meilleurs éléments en fin de partie, quand le niveau de fatigue commence à être là. Ils envoient leurs meilleurs comme Pollard. Je me souviens de ce match contre les Français, notamment de la Coupe du Monde, où bon, c'est sûr qu'il y a eu un point d'écart, mais j'avais trouvé le coaching vraiment excellent. Et ce que rajoute Jérôme en termes de gestion des émotions, c'est le sport de haut niveau maintenant, et c'est ce qui fait la différence entre les gens.
On a aussi, donc, pour être sur l'autre match et être complet sur ce rugby de championship, l'Australie qui est allée battre l'Argentine à La Plata, 20 à 19 sur le fil, hein, une pénalité dans toute fin de match. Et l'Australie met fin à une série de 8 défaites consécutives en rugby de championship. Il était temps, j'ai envie de dire, Jérôme Krabaty, parce que c'est quand même une grande nation de rugby, même si c'est plus la grande nation qu'elle a été. Ça paraissait quand même incroyable, cette statue de défaites consécutives en rugby de championship.
Oui, effectivement, l'Australie n'est pas très très bien, et il fallait qu'elle gomme toutes ses imperfections. Elle jouait donc dans un des plus grands stades en Argentine, donc devant 53 000 spectateurs et dans des conditions épouvantables. Il y avait du vent, il pleuvait, et finalement, donc, les Australiens ont vraiment mis en place un rideau défensif performant et ont été patients. Et finalement, eh bien, ils passent devant pareil, donc en fin de partie, avec une victoire 20-19 sur le fil. Et on s'est accrédité vraiment d'un très bon match, puisqu'ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Et c'est vrai qu'il faut qu'ils se remettent un petit peu comme ils étaient avant, c'est-à-dire une équipe complète qui, à l'époque, je me rappelle, défiait les Néo-Zélandais et les Sud-Africains. Et les Australiens ont un très très bon fond de jeu, les Argentins sont très vivaces également, mais là, c'est vrai que le buteur, l'Olesio, a été assez serein, et à la fin passe la pénalité de la gagne.
Avec le vent favorable, ils avaient choisi d'avoir le vent contre en première mi-temps, et finalement, ça a été une bonne stratégie aussi.
Oui, complètement. Et c'est vrai qu'ils ont su jouer avec les éléments. Ça fait partie également du jeu, de jouer avec les éléments naturels. Et ils ont aussi été capables d'aller défier des Argentins qui étaient soutenus par un public très, très impressionnant. Et dont un de leurs joueurs, donc Augustin Crevy, qui finit sa carrière sur cette défaite-là avec plus de 110 sélections, 51 capitanats. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Argentine est vraiment une nation... qui avait vraiment fait des bons résultats aux Coupes du Monde. Et voilà, une nation majeure. Donc franchement, les Australiens n'ont pas démérité.
On a retrouvé des vraies valeurs de combativité des Australiens qu'on avait trouvé un peu dépassées ces derniers mois, notamment en Coupe du Monde et même sur les deux premiers matchs de ce Rugby Championship face aux Sud-Africains chez eux. Mais là, on a vraiment retrouvé... des vraies valeurs de combat, d'abnégation, de pas lâcher, de se dire voilà, on va pas prendre une troisième défaite consécutive.
Oui, il va y avoir le week-end prochain des revanches vraiment très très intéressantes que je recommande à tous les téléspectateurs, puisque les Néo-Zélandais vont vouloir prendre leur revanche, mais aussi les Argentins. C'est la force de ce Rugby Championship, justement, avec ce système de match aller-retour, de justement essayer d'améliorer les points qui ont dysfonctionné pour le match d'après. Et ça, c'est très très intéressant, parce que justement, comme le disait tout à l'heure Jean-Louis, le système de coaching est une vraie stratégie, et on se rend compte que l'équipe qui gagne, c'est pas une équipe de 15 joueurs, c'est une équipe de 23 joueurs. Et on voit bien que souvent les impact players qui rentrent font la différence. Et on se rend compte que ce rugby moderne, avec ses quatre nations, nous régale devant le poste de télévision.
Alors vous l'avez dit, les revanches le week-end prochain, même si c'est pas tout à fait match aller-retour, puisque le match se déroule encore sur la même nation qui accueille, donc toujours en Argentine et toujours en Afrique du Sud. Au classement, on a l'Afrique du Sud qui est très largement devant, qui a pris une grosse option sur la victoire finale, puisqu'ils ont 14 points. Les Néo-Zélandais sont deuxièmes à 6 points, l'Argentine à 5 points et l'Australie à 4 points. avec un bonus offensif sur le deuxième match pour les Sud-Africains, donc ils sont pour l'instant très très largement devant. Et il restera deux journées après, dont une double confrontation Australie-Nouvelle-Zélande et les Sud-Africains. Là, pour le coup, il y aura bien match aller-retour. Il y aura un match en Afrique du Sud contre l'Argentine et un match en Argentine pour les Sudaf, donc en Afrique du Sud. Donc voilà, le rugby championship continue le week-end prochain. Jean-Louis Guépy, on va passer au golf et à, j'ai envie de dire, l'intouchable chez Fleur. Septième trophée de la saison. C'est juste une saison monstrueuse.
Plus là, ouais, avec la médaille olympique à Paris, arrachée de l'arrière. En fait, il fait un score prodigieux pour aller chercher la médaille d'or à Paris. Ouais, il a l'air au-dessus du lot. J'écoutais Jean Van de Velde, Thomas Levé, expliquer un petit peu comment un joueur en 2024 peut arriver encore à dominer après un Tiger Woods, enfin, les Vijay Singh, tous les grands champions qu'on a connus. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a l'air, il a l'air bien dans sa peau. Il a une famille, il a l'air structuré. Enfin, je veux dire, on a l'impression que rien ne peut lui arriver. Et dès qu'il est menacé dans une compétition, bah, il met à chaque fois le petit coup d'accélérateur pour faire la différence. Bon, là, la FedEx Cup, c'était la finale du... Enfin, le Tour Championship, pardon, c'était la finale, avec les 30 meilleurs du circuit américain de l'année, dont notre petit Français Mathieu Pavon. Donc il finit 17e. Il est donc la première moitié de tableau. Donc une année exceptionnelle pour lui aussi. Au niveau du golf français, on n'a jamais vu ça. Et ça donne des ailes d'ailleurs à tous les autres Français qui se sont mis récemment à gagner sur le circuit européen, des nouveaux noms. Voilà, Pavon super pour nous les Français, et Scheffler au-dessus de la planète golf. Et bon, après il va falloir confirmer, parce que c'est très difficile en golf de durer et d'être régulier, sachant qu'il y a quand même une belle compétitivité autour de lui. Les Morikawa, les Tigala, les Scheffler, enfin les cinq épreuves majeures de l'année ont été gagnés par des Américains. Donc les Européens, puisque la prochaine Ryder Cup se fait aux États-Unis, commencent déjà à se gratter la tête. Il y a une domination en individuel, hein, surtout du golf américain, chez les filles aussi. Voilà, donc il y a de belles années golf en perspective.
Alors vous l'avez dit, on va revenir un petit peu sur cette FedEx Cup là, mais Morikawa est revenu très très près quand même. Il a quand même été poussé chez Fleur dans ses derniers retranchements, puisque chez Fleur a mal démarré ce dernier jour. Et Morikawa s'est rapproché, comme vous l'avez dit, après, sous la menace, un petit coup d'accélérateur et reprend les devants.
Si on prend les résultats seuls du Tour Championship, c'est Morikawa qui gagne cette compétition-là. Sauf qu'au départ du championnat, ils partent tous en fonction du classement de l'année en cours, avec des points de bonus ou des points de malus. Et donc, Scheffler est parti avec ses deux coups d'avance. Et en fait, sur Morikawa, il a toujours gardé ce petit avantage. Et bon, il a réussi à gérer, c'est ce qu'ont dit les copains de Canal+. Il a géré à chaque fois. C'est vrai qu'il y a eu des moments de panique, mais il a une telle confiance qu'il est impénétrable.
Alors c'est une constante, hein, c'est ce qu'on évoquait tout de suite au rugby avec vous, Jérôme Crapati, mais voilà, ce capital confiance, il est quand même indispensable pour les champions. On voit bien que c'est à chaque fois le facteur X qui permet de se dépasser, parce qu'on sait qu'on peut le faire, donc on le fait.
Surtout que le golf maintenant est en train de devenir un sport d'équipe. On s'aperçoit que tous ces joueurs ont des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des coachs de putting sur des secteurs du jeu bien définis. Enfin, c'est plus... j'ai vécu, moi, à mon petit niveau, une époque où c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est des teams qui lancent des fusées et qui les entretiennent pour durer le plus longtemps possible.
On va revenir un petit peu sur Mathieu Pavon. Vous l'avez dit, ça tire le golf français vers le haut, mais on faut quand même qu'on parle un petit peu de sa saison en trois résultats. 3e à Pebble Beach, 5e à l'US Open, 12e au Masters, c'est quand même des tournois extrêmement prestigieux. J'allais dire les top 10 à chaque fois ou presque, puisqu'il est 12e à Augusta. C'est quand même des résultats qu'on n'a quasiment jamais connus en France.
Et premier au Farmers, il gagne, il arrive et au bout de son quatrième tournoi, il gagne sur le circuit américain. Donc aujourd'hui, le circuit américain s'est ouvert aux Européens. Il faut savoir que tous les ans, les 10 meilleurs joueurs du circuit européen peuvent monter maintenant sur le PGA Tour, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ils devaient repartir dans un système de qualification. Mathieu a gagné sa carte comme ça, avec McIntyre, l'Écossais, qui finit pas mal aussi. Voilà, c'est une année exceptionnelle. Il est pour l'instant 27e joueur mondial. Il est dans son rang, il tient, et à chaque fois qu'il y a une grosse échéance, il est présent. Donc ça, je pense que c'est la marque des grands joueurs.
Ça dénote d'une force de caractère, effectivement, et là aussi d'un capital confiance. Quelles sont les prochaines grandes échéances de golf, Jean-Louis Guépy ?
Alors là, le circuit américain est en repos pour quelques semaines, qui va redémarrer certainement dans 2 ou 3 semaines. Les grandes échéances maintenant sont en Europe. Donc Mathieu va se reposer, mais il va prendre sa valise et il va revenir à la maison, entre guillemets, avec le PGA Championship à Wentworth. Bon, il n'y a plus de majeurs, mais il y a encore des beaux tournois en Europe. Il y a encore des Français qui sont aux portes de la carte et d'autres qui sont aux portes de la carte du circuit américain aussi. Je n'ai pas tous les noms là, parce que il y a plein de nouveaux noms dans le golf français. Il y a des jeunes qui émergent. Non, il y a encore une saison qui va durer jusqu'à décembre, et le circuit américain va repartir à Hawaï début janvier.
Ok, eh bien on va suivre ça de très très près dans les semaines et les mois à venir. On va enchaîner avec les Jeux paralympiques, puisque voilà, c'est quand même un peu l'événement majeur de ces 2 dernières semaines. Et on va s'intéresser à nos athlètes calédoniens. Alors, on a visiblement des soucis de liaison avec Olivier Degnaud, mais dès qu'il nous rejoindra, on lui permettra d'intervenir, bien évidemment. Donc, on a quand même Vitolio Cavacava qui a fait 7e au javelot samedi matin. Il lui reste encore le lancer du poids le 7 septembre. On a Pierre Ferbank qui, ce matin, a fait 6e sur le 400 mètres. Et Pierre, il lui reste le 100 mètres et le 800 mètres les 4 et 5 septembre, donc en fin de semaine. Et on a Félicien Siapo qui a fait 4e sur le 100 mètres en 11,66 à 8 centièmes de la 3e place avec le record d'Europe. Donc il est vraiment passé tout près de la médaille. Jérôme Krapaty, qu'est-ce que ça vous inspire, ces performances de nos Calédoniens ?
Ce sont des performances qui sont vraiment de très haut niveau. Les Jeux paralympiques prennent la suite donc des Jeux olympiques et sont dans la même dynamique. On a pu voir une magnifique cérémonie d'ouverture et on voit surtout des Jeux paralympiques avec des athlètes extrêmement motivés, extrêmement préparés et aussi qui donnent le meilleur donc sur toutes les disciplines. Et les 3 Calédoniens ont fait vraiment d'excellents résultats. Parce que même s'ils ne sont pas médaillés, il faut savoir que c'est du très très haut niveau. Ici, il existe un pôle France, dont le responsable est d'ailleurs Olivier Degnaud, et José Marquez également s'en occupe. Eh bien, on se rend compte que toute cette préparation a été faite en amont pour que justement ces athlètes aillent faire les meilleurs résultats. Donc, c'est vraiment de bon augure pour la suite que finalement il y ait donc ces résultats. Et puis, je rappelle également que le palmarès de Pierre Ferbank est éloquent et vraiment impressionnant, et qu'il est toujours au rendez-vous avec ces jeux magnifiques.
Olivier Degnaud, normalement vous êtes avec nous.
Je suis avec vous, j'ai reconnu la voix de Mr. Krapaty, je pense, c'est ça.
C'est exactement ça. Donc, ils sont avec moi en studio, Jérôme Krapaty et Jean-Louis Guépy.
Bonjour à tout le monde, allez, bonjour à Jean-Louis également.
Bonjour.
Olivier, vous êtes dans le bus ou pas loin de prendre le bus, si j'ai bien compris?
Non, je suis dans la tente là, puis je suis en train de commander un café parce qu'on n'a pas le temps de déjeuner là, tu vois. Donc, si tu m'entends commander un cappuccino, ne t'inquiète pas.
Très bien. On va pas vous retenir trop longtemps. On était en train de commenter les performances de nos athlètes calédoniens avec la 7e place au javelot de Vitolio Cavacava, la 6e place de Pierre Ferbank sur le 400 et la très belle 4e place de Félicien Siapo sur le 100 mètres. Qu'est-ce que vous, qui êtes directement auprès des athlètes, vous pouvez nous dire sur ces 3 athlètes, comment ils ont vécu leurs premières épreuves et comment ils abordent les suivantes?
Oui, alors, écoute, pour l'instant, c'est sûr que, bon, je commençais par Pierre, il est un peu déçu de sa sixième place, parce que la médaille était envisageable à l'issue des séries. Bon, après, il fait quand même un super temps, il fait 2 secondes de moins, c'est sa meilleure perf de l'année avec 2 secondes de moins, il fait 49-10 en série le matin. Voilà, après les autres c'est des avions de chasse, hein, que ce soit le Thaïlandais, le Canadien, les avions de chasse, l'Américain, justement, on a énormément progressé cette année. Après, Vittorio, lui, c'est 7e au niveau de la partie. Tout cappuccino, plus. Donc, Vittorio, désolé. Hein. Vittorio, lui, il est à son niveau. Alors, il est à 2 mètres de sa meilleure performance et de son record qu'il a battu là, donc, au mois de juin ici à Nouméa. Le truc, c'est que pris par l'enjeu, hein, quand même, hein, c'est boosté avec les spectateurs. Ouais, j'arrive. Boosté par les spectateurs, c'est sûr que le Stade de France, ça transforme, hein, en général, et les Français sont vraiment à fond derrière chaque athlète de chez nous. Et puis, t'as Félicien. Alors, Félicien, lui, c'est sûr que lui, il a été vraiment, vraiment pris par l'émotion, parce qu'il rate un petit peu son départ, malheureusement, et il a montré qu'il avait un gros, gros potentiel, parce qu'il revient très fort sur la fin. Malheureusement, il lui manque 8 centièmes, c'est pas grand-chose, mais il est jeune, il a appris. Et c'est vrai que, comme j'entendais, là, tu parlais de José tout à l'heure, Jérôme, et c'est vrai que José a fait un énorme travail avec lui, on lui est très reconnaissant, parce que sans José, il n'y aurait pas de Félicien, en tout cas en finale, et il est très, très proche. Très très proche du podium, en tout cas. Et j'espère que l'avenir nous dira que Félicien a vraiment un gros potentiel, et on en est tous persuadés.
Et pour se consoler, il repart quand même avec un record d'Europe.
Alors oui, voilà, c'est un record d'Europe qui a été homologué, parce qu'il avait déjà fait je crois que c'était au championnat de France ou à Nouméa, mais à un dixième près, une perf équivalente. Mais là, c'est vraiment électrique, avec le vent mesuré, dans toutes les conditions, donc c'est vraiment le record d'Europe officiel qui va lui être attribué, donc il repart avec un record d'Europe, c'est énorme. Bien sûr, c'est énorme à 21 ans, c'est des grosses performances, il a tout l'avenir devant lui, hein, c'est évident.
Bon, eh bien, on va pas vous retenir plus longtemps, on va vous laisser apprécier vos cappuccinos
je te remercie, mais simplement dire que c'est vrai que, tu vois, tout le boulot qu'on fait à Nouméa avec José, et puis que ce soit Germain, et tout le staff qui bosse avec nous au niveau du Pôle France, ça montre qu'on peut faire parler de la Nouvelle-Calédonie d'une façon positive, qu'on peut faire des grandes choses, au lieu de se foutre sur la gueule, là, comme on fait en ce moment. Bah, quand on associe toutes nos forces et nos compétences et nos différences, on arrive à des grandes choses, et j'espère que c'est pas fini, hein, que ce soit Pierre, que ce soit Vittorio, ou que ça soit Félicien, j'espère qu'on va montrer que c'est possible de réaliser des grandes perfs, et les Français sont tous derrière, hein, tu le vois, hein, tu peux le voir sur les réseaux sociaux dans le stade. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte, hein. Et l'ambiance, elle est super au sein de notre équipe, et j'oublie pas tous ceux qui sont là à Nouméa, hein, que ce soit des Rose Volepa, des Germain Wayguené, tous ceux qui bossent avec nous, hein,
Thierry Cibone,
on oublie, mais ouais, Thierry Cibone, Manifou, il fait un énorme boulot aussi au niveau des jeunes, faut pas l'oublier. Thierry est pas passé très loin de la sélection. T'as Rose Rendez-vous aussi, ils sont là. Sauf que là, vraiment, les sélections étaient super super dures, puisqu'il fallait être dans un top 6 mondial. Et encore, on a laissé les top 6 mondiaux à la maison en France, hein, tu sais. Donc c'est vraiment l'élite, hein. Il y a 3 athlètes qui ont été sélectionnés en équipe de France pour l'athlétisme paralympique, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment très très dur, quoi. Enfin voilà, c'était juste un petit message à passer, parce que malheureusement les infos que j'ai sont jamais très positives. Bon, deux cappuccinos, c'est pour moi, je te laisse mes 2 cappuccinos.
Le message est passé, et vous transmettez tous nos encouragements à Pierre Ferbank et à Vittorio pour leurs épreuves à venir.
Voilà, je te remercie, et puis à la bise à vous tous. Là.
Merci à vous, Olivier.
Jean-Louis et Jérôme, ciao.
À bientôt.
Merci.
Messieurs, je vous propose de continuer cette émission avec un débat justement sur les Jeux paralympiques qui suscitent, on le voit à la télé, un fort engouement. Les stades sont pleins, les ambiances sont incroyables, à l'instar de ce qu'on a connu il y a 3 semaines pendant les Jeux olympiques. On sent aussi un intérêt des téléspectateurs pour ces Jeux paralympiques. À votre avis, est-ce que c'est simplement de la continuité des Jeux olympiques, justement, est-ce qu'on surfe sur la vague, ou y a-t-il un engouement particulier de plus en plus important pour les Jeux paralympiques? On découvre aussi des disciplines qui n'existent pas chez les valides, je pense au cécifoot, des épreuves de natation aussi, etc. Donc, est-ce que, d'abord, simplement, est-ce que vous suivez un peu autant ces Jeux Olympiques que ces Jeux Paralympiques, pardon, que vous avez suivi les Jeux Olympiques, Jérôme Crapati.
Alors je les suis et je me rends compte que cette dimension d'inclusion, elle est hyper importante. Pourquoi elle est hyper importante? Parce que finalement, à partir, comme vient de le dire Olivier, à partir de ces différences-là, ils construisent l'excellence et ils nous régalent avec de magnifiques donc performances. Mais ils sont aussi dans l'humilité, comme les autres athlètes, d'une préparation qui se fait dans l'ombre. Et tout à l'heure, Olivier parlait du Pôle France. Il y a un vrai travail qui se fait ici en Nouvelle-Calédonie avec des pôles espoirs, avec des pôles France, pour justement préparer les athlètes et faire en sorte qu'ils soient au meilleur niveau lorsqu'ils partent pour ces grandes échéances. Et c'est vrai que la médiatisation qui est quand même assez importante et le succès qu'a eu les Jeux Olympiques bénéficie donc aux Jeux Paralympiques, puisqu'il y a une vraie dynamique et on voit bien que les supporters qui viennent du monde entier, ils suivent ces Jeux en direct. Il y a je ne sais plus combien de millions de billets qui ont été vendus et il y a également donc une volonté d'être vraiment dans une dimension d'inclusion.
Alors vous l'avez dit, le terme inclusion est important, mais est-ce que c'est pas la résultante aussi, pas seulement, mais aussi d'un travail accompli avec les collectivités et les associations en termes d'inclusion justement, Jean-Luc Guépy?
Forcément, le sport c'est pour tout le monde. Ces gens-là font les mêmes efforts que les athlètes. Très médiatique.
Ils en font même parfois plus quand vous regardez le tir à l'arc, par exemple, où on tient son arc avec les pieds. Et voilà, donc,
Pour moi, ils méritent autant. C'est sûr que là, l'avantage des Jeux Olympiques, c'est la médiatisation. On découvre des talents. On découvre des gens qui ont donné leur vie pour le sport, qui font passer des messages. Je pense notamment à Pierre Ferban, qui est l'ambassadeur du sport calédonien, on peut le dire maintenant, depuis une grosse dizaine d'années. Même quand il est en échec, il diffuse des messages qui sont extrêmement positifs. Il a la banane, il a le sourire. C'est toujours positif, c'est toujours un engouement d'écouter Pierre Ferban, même quand il a fini sixième. Et de toute façon, nous le connaissons, il va réagir.
Est-ce que vous avez regardé des disciplines en particulier que vous aviez jamais regardées jusqu'à présent?
Alors, pas trop, parce que c'est vrai qu'on était beaucoup la seule actualité golf, mais c'est vrai qu'il y a des sports que l'on ne connaît pas. Et le cécifoot, j'ai vu un tireur à l'arc, un tireur à la cible aussi, dans sa chaise, qui faisait des performances incroyables. C'est des surhommes.
Jérôme Crapati.
Oui, il y a différentes disciplines qui sont vraiment pas du tout connues et le fait de pouvoir les découvrir donc à la télévision nous ramène avec beaucoup d'humilité et c'est vrai que le sport est une très belle école à la fois donc de l'abnégation, de la persévérance, de la performance, mais on voit bien qu'il y a un vrai travail de fond qui est fait pour essayer d'être au rendez-vous au bon moment et au bon endroit. Et c'est vrai que ces athlètes sont solidaires et comme le disait tout à l'heure Olivier Degnaud, il y a à la fois une bonne ambiance entre les athlètes donc par pays, mais on voit aussi beaucoup de respect. L'autre jour au niveau du taekwondo, il y a une athlète du taekwondo qui allait prendre la perdante et elles ont défilé avec le drapeau et c'est ce côté symbolique de dire ok, j'ai gagné, mais je suis capable à un moment donné de mettre en valeur la personne que j'ai battue. Et bien avec l'entraîneur, j'ai trouvé ça une très très belle image. Et des images comme ça, il y en a tout le temps. Et c'est ça qu'il faut retenir parce que cette joie qui est finalement peut-être la suite peut-être d'une comme un Félicien Schiappo qui a tout juste 21 ans, qui a devant lui une très grande carrière.
Absolument. Et on voit aussi des athlètes qu'on pense souvent un peu fragiles, pour lesquels on a toujours un peu d'inquiétude. Et quand vous voyez le rugby, par exemple, en fauteuil, ou le basket, où il y a vraiment beaucoup de contacts avec les fauteuils, où les fauteuils se retournent, vous dites là, on a affaire à des athlètes, on n'a pas affaire à des personnes en situation de handicap. Donc c'est quand même aussi une valeur forte, je trouve, de se dire, voilà, c'est des hommes et des femmes comme les autres, des athlètes comme les autres qui poursuivent leur rêve olympique. Jean-Luc Guépy.
Ouais, on en revient au point commun de tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est le mental en fait. Dès qu'on a la tête, on peut pousser les montagnes. Et c'est des exemples d'abnégation, de volonté, d'exemple, d'exemplarité. Voilà, ils ont combattu pour une médaille. À la fin, ben, ils se serrent la main, ils s'embrassent, ils défilent avec le même drapeau. Enfin, c'est des images qu'on aimerait voir plus souvent en ce moment. Ça, on est d'accord.
Et la grande différence pour eux, par rapport à ce qu'ils visent d'habitude, c'est le public. Ils sont dans des stades qui sont pleins, que ce soit, voilà, j'ai vu Roland-Garros plein pour le tennis, alors que d'habitude, en tennis fauteuil, c'est sur un court annexe à 1500 places et qui n'est jamais plein. On voit le Stade de France qui est plein à craquer aussi pour toutes les épreuves d'athlétisme. Ça, c'est la vraie... En fait, elle est là, la vraie différence pour eux à appréhender, c'est de, comme l'a dit Olivier Deniaux tout à l'heure, de ne pas être paralysé un petit peu par tout ce monde qui est là et qui... Même s'il vous soutient, ça peut paralyser. C'est ce qu'il a dit sur le départ de Félicien Sciappo.
Oui. Ils doivent absolument gérer la gestion de leurs émotions et ils ne sont pas habitués à un tel engouement et à avoir autant de public. Et donc, par rapport à ça, eh bien, non seulement ils se surpassent, mais ils sont capables également de travailler avec leur mental et surtout eh bien, d'être au rendez-vous au bon moment. Et même si, à un moment donné, ils ne font pas la performance parce qu'ils ont été amoindris peut-être par peut-être l'émotion ou un petit peu de peur, eh bien, ils essaient au maximum de donner le meilleur. Tout à l'heure, le cas technique, M. Deniaux disait que c'est les concurrents de Pierre Fairbanks sont des pilotes de chasse. Ce que veut dire par là, c'est qu'il y a une telle performance et un tel haut niveau qu'on mesure que les trois athlètes qui sont partis et tous ceux qui se préparent également au niveau de la Ligue handisport et de sport adapté, eh bien, toutes ces personnes-là, eh bien, elles sont valeureuses et elles font un travail formidable chaque jour.
C'est le haut niveau. On va terminer avec un dernier point sur ce débat. Que vous inspire la présence d'un ex-athlète comme Yannick Noah, par exemple, auprès de l'équipe de France de tennis paralympique, Jean-Luc Guépy?
Vous m'apprenez quelque chose, Olivier, je ne savais pas. Mais c'est vrai que j'avais reconnu Yannick sur les photos. Non, mais Yannick Noah, c'est un moteur. Tout ce qu'il a touché en termes de coach, il a souvent réussi. Donc c'est quelqu'un qui a les mots. C'est quelqu'un qui a les attitudes, il doit mettre un petit peu de musique de temps en temps aussi. Enfin, il décontracte tout le monde, c'est un meneur d'hommes.
Il a été appelé par Stéphane Houdet, qui est le numéro 1 français, voilà, qui a sollicité Yannick Noah pour faire partie de l'équipe, justement, pour cette approche psychologique de l'épreuve. Jérôme Crapaty.
Mais Yannick Noah, on le connaît, et comme vient de dire Jean-Louis, il y a une dimension d'humanité. C'est un homme d'une grande humanité et qui est là et qui est vraiment toujours avec sa joie de vivre et qui est toujours très très solidaire et très très, très bienveillant avec une force intérieure qui transmet à tous ses athlètes.
Messieurs, merci. On va terminer cette émission avec vos coups de cœur. Jean-Louis Guépy, on va commencer par vous.
Alors, ce week-end, on a fait une compétition à la Wingui, le trophée de Boulou Paris, qui a été gagné par Nico Tavergeux, le fils de l'ancien gardien de but de la sélection de Nouvelle-Calédonie, qui est un très bon golfeur maintenant. Donc ça a été une surprise. Mais le clou de la journée, c'est les instances du golf calédonien, ainsi que la Fédération française de golf, ont remis la médaille d'honneur de la Fédération française de golf à notre... fondateur du golf club de la Wingui, Dino Chachilotto. Bon, c'est le nom de Dino qui est en avant, mais il y a toute sa famille derrière, à qui je pense. C'est un honneur qu'on lui rend. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux bâtisseurs dans le golf calédonien, Jacques Lafleur et Dino Chachilotto, à qui on doit les quatre parcours du territoire. Donc les 1200 golfeurs sont avec moi pour lui dire merci.
Le message est passé. Merci Jérôme Crapaty, votre coup de cœur.
Ben moi, j'ai deux coups de cœur. Le premier, c'est la Ligue Handisport et Sport Adapté, les trois athlètes, Vitolio, Pierre et Félicien, avec toute leur équipe d'encadrement qui participe aux Jeux Paralympiques. Et c'est, je trouve, formidable de pouvoir donc les soutenir. Et le deuxième coup de cœur, c'est il y a un tournoi qui s'appelle l'Inextenso Rugby 7 et qui se déroule donc en métropole actuellement. Et donc, lors de la finale Pau contre Monaco, l'international international de rugby à 7, Nissié Huillard, qui est originaire donc de Nouvelle-Calédonie, a fait une passe magistrale qui a mené à un essai. Malheureusement, son équipe a perdu, mais la passe était formidable.
Et là aussi, c'est un peu une constante dans le rugby en ce moment. Ça se jouait dans des conditions dantesques.
Oui, il pleuvait énormément.
Messieurs, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.